Studio Tamani, toute la voix du Mali.
Studio Tamani, voici les informations en français.
Mercredi 11 septembre 2024, il est 8h ici à Bamako, même heure sur la radio Dondé 107.7 FM à Douanzin. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de cette édition matinale. Les pluies diluviennes ont détruit de nombreux champs à l'intérieur du pays. Des agriculteurs craignent une insécurité alimentaire cette année. Les acteurs de la lutte contre le changement climatique se concertent depuis hier. Objectif, élaborer une stratégie nationale et un plan d'action pour lutter contre le dérèglement climatique au Mali. L'Office central des luttes contre l'enrichissement illicite au CLEI à la quête de moyens pour protéger les lanceurs d'alerte. Ses responsables pensent que la protection de ceux-ci peut accentuer la lutte contre la corruption. À la présentation, Adama Magbaïdala. Faut-il craindre une insécurité alimentaire cette année après les inondations survenues dans le pays? En tout cas, la situation préoccupe des producteurs dans plusieurs localités. Ceux-ci affirment avoir perdu des hectares de champs. À cela s'ajoute l'insécurité et les déplacements massifs des populations. Selon le système d'alerte précoce, plus de 52 000 personnes déplacées ont été enregistrées en cette saison hivernale dans les régions de Badiangara, Douanzin, Saint, Diri et Gao. Imran Kilumeiga.
Plus de 2000 hectares de champs ont été envahis par les eaux de pluie dans le cercle de Bankas et région de Bandiagara à la date du 8 septembre 2024. C'est dimanche ce qu'a déclaré Mamadou Camara, directeur régional du développement social et de l'économie solidaire de Bandiagara. Cette situation fait craindre à certains producteurs de Bankas un risque de famine cette année.
Il n'y a même plus de terres cultivables. L'eau a tout détruit. L'insécurité est toujours présente et les zones dans lesquelles on peut cultiver sans danger ont été submergées par les eaux de pluie.
Les dégâts occasionnés par la pluie auront forcément un impact considérable sur les récoltes à venir.
L'insécurité alimentaire est déjà là. Nous demandons juste de l'aide aux autorités pour qu'on ne reste pas dans cette souffrance.
De son côté, le système d'alerte précoce souligne que des évaluations des pertes de cultures dues aux inondations sont en cours. Kadjali Koïté est responsable de la division technique du système d'alerte précoce.
Le gouvernement et ses partenaires sont en train d'intervenir. Distribution de céréales et puis de gaz transfert pour certains partenaires sont en cours. Nous, on est en train de former les enquêteurs qui doivent se rendre sur le terrain pour ces évaluations-là.
Il faut souligner que plusieurs localités ont été touchées par les inondations. Ces catastrophes ont emporté des hectares de culture faisant planer une menace de mauvaises récoltes cette année.
Et réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Une concertation nationale sur le changement climatique s'est ouverte hier à Bamako. Elle vise à élaborer une stratégie nationale et un plan d'action dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique au Mali. Cette concertation de 3 jours est organisée par le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement et ses partenaires. À l'issue de la rencontre, des recommandations seront faites. Fatia Tara.
Pour les ministres de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, cette initiative vise à maîtriser les effets du changement climatique qui s'accentue de plus en plus sur le Sahel. Mamadou Haïdara est le secrétaire général du dit ministère.
Le Sahel est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique. Les données montrent que cette région subit des hausses de température plus rapides que la moyenne mondiale, ont des conséquences désastreuses sur nos écosystèmes et nos populations.
Il est plus que temps pour les pays du Sahel de fédérer leurs efforts afin de contrer les dérèglements climatiques, car il est en partie la base des conflits intercommunautaires, ajoute Hawa Aou, secrétaire exécutive, autorité du Liptako-Gourma.
La région du Liptako-Gourma est en proie à la multiplication des conflits violents et à l'intensification des crises humanitaires. Cela vient exacerber les conditions de vie des communautés déjà éprouvées.
Notons que cette rencontre a enregistré la présence de plusieurs acteurs. Il s'agit entre autres des partenaires techniques et financiers, des institutions de la République et les pouvoirs coutumiers.
L'Office central des luttes contre l'enrichissement illicite au CLEI veut protéger les lanceurs d'alerte au Mali. Il a organisé hier mardi une rencontre d'échange sur la protection de ces individus importants dans la chaîne de lutte contre la corruption. C'était en marge de la journée africaine de lutte contre la corruption, célébrée chaque 11 juillet. Moussa Malé Sissoko.
Les lanceurs d'alerte sont parfois exposés à beaucoup de menaces après avoir dénoncé des cas de corruption. Afin de mieux les protéger, l'OCLEI envisage donc plusieurs mesures. Seydouna Oumar Diarra, représentant de l'OCLEI, revient sur ces dispositions.
Ces mesures concernent la non-divulgation de l'identité et l'adresse du témoin ou de la victime, l'élection de domicile dans un commissariat ou une gendarmerie, l'usage d'une identité d'emprunt, l'enregistrement audiovisuel des déclarations et leur placement sous scellé.
Lecture du code pénal et du code de procédure pénale est même prévue pour une protection plus efficace des lanceurs d'alerte. Fadiala Koulibaly, président de l'Association malienne pour la promotion de la bonne gouvernance, il salue la nécessité de cette protection pour encourager d'autres personnes à devenir des lanceurs d'alerte.
C'est déjà une fois que l'alerte lancée qui se retrouve licenciée, font l'objet de représailles, de harcèlement moral, d'agressions physiques qui peuvent se retrouver poursuivies pour diffamation. Aujourd'hui, les comptables, les ordonnateurs, les responsables financiers, les DAF, peuvent efficacement contribuer à limiter sérieusement le coût de la corruption dans notre pays.
Dans une étude faite sur la problématique des finances au Mali, l'OCLEI renseigne que de 2005 à 2019, l'État a perdu 1266 milliards de francs CFA à cause de la corruption.
Direction Ansongo, des hommes armés non identifiés ont tiré sur un camion de transport en commun en provenance d'Indéliman ce lundi 9 septembre 2024. L'attaque s'est déroulée à 50 km d'Ansongo selon des sources locales. Le chauffeur du véhicule a reçu une balle et est mort sur le coup, rapportent les mêmes sources.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Interrompre de façon volontaire une grossesse est une pratique récurrente dans notre pays. Si cette procédure nécessite un contrôle médical, elle est souvent faite en dehors du cadre normal, alors que les médecins préviennent contre de multiples dangers parmi lesquels le décès de la maman. Et au Mali, l'interruption volontaire de la grossesse est un acte formellement interdit par la loi, même s'il y a des exceptions. Plus d'explications dans ce dossier, réalisé et présenté par Amadou Sadio Camara.
L'avortement, d'une manière générale, est l'interruption spontanée ou provoquée d'une grossesse avant 22 semaines. Il est dit clandestin, selon les médecins, lorsqu'on utilise des moyens en vue d'expulser un fœtus qui évolue normalement et sans danger pour la vie de sa mère. Que pensent donc les citoyens de cette pratique qui mine notre société ?
De nos jours, l'avortement n'est pas une bonne chose. Elle peut engendrer beaucoup de conséquences chez la jeune fille. Religieusement, ce n'est pas une bonne chose. Déjà que la grossesse est contractée, il faut donc garder l'enfant en vie. Cela vaut mieux que le tuer.
Il y a des médicaments dont l'air prise pourrait tuer l'enfant, alors que cela n'était pas le but recherché.
L'avortement n'est pas une bonne chose. Certains peuvent même en mourir.
Les médecins sont formels. L'interruption clandestine de grossesse peut avoir des conséquences graves sur la santé de la patiente. Docteur Khalifa Traoré, gynécologue obstétricien.
L'avortement provoqué clandestin entraîne des complications très graves, comme par exemple les hémorragies, les infections. Et dans d'autres cas même, la patiente arrive à un état très grave où le décès est même constaté souvent.
L'avortement clandestin est fortement interdit par les textes somalis. Selon la loi, les auteurs sont passibles à des poursuites judiciaires. Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste.
Les auteurs d'un avortement peuvent encourir une peine de 5 ans d'emprisonnement et facultativement de 20 000 à 1 million de francs CFA d'amende. S'agissant des médecins et autres, peuvent être sous la coupole aussi de condamnation de 2 ans.
Le recours à la clandestinité de l'avortement s'explique par les caractères conservateurs de notre société, affirme le sociologue Kounandji Diarra. Une situation qui contribue à accentuer le phénomène.
C'est un sujet tabou pour les conservateurs. Rares sont les familles où les parents discutent en famille parce que ce sont des conservateurs, des pourquoi certains phénomènes se passent derrière eux des conséquences dramatiques.
Au-delà de tout ce qui précède, il est possible de procéder à un avortement, mais dans des conditions bien précises. Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste.
Les cas échéants où l'on peut être amené à l'interruption, ça c'est les cas de force majeure où le diagnostic d'un médecin spécialiste peuvent amener à des complications de grossesse qui peuvent mettre soit la vie de la maman en danger, soit la vie de l'enfant en danger ou des deux.
Néanmoins, les spécialistes de la santé recommandent toujours de se rendre dans des structures médicalisées propres à la pratique.
Merci Amadou Sadio Camara et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. Vous pouvez également réécouter gratuitement ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service Conafonie au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Restez toujours à l'écoute. La version Bambara, c'est juste après le magazine avec Aïssa Diarra. Femmes et l'état civil au Mali, c'est le thème de notre magazine « Toutes les femmes du Mali » du jour. Les actes de naissance, de mariage, de décès sont entre autres documents importants dans la vie d'un homme. L'accès à ces documents d'état civil est-il facile pour une Malienne? La femme a-t-elle aussi droit de garder ses actes civils dans le foyer? Que dit le code de personnes et de familles sur la gestion de l'état civil au Mali? Les précisions avec Moussa Mali Sissoko.
L'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF, est une ONG malienne. Elle lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes. La présidente nationale, Mme Diawara Bintou Koulibaly, affirme que des femmes sont confrontées à des difficultés pour accéder à des documents d'état civil.
Les femmes aussi ne comprennent pas, sauf en cas de difficulté. Et nous rencontrons beaucoup de cas où c'est l'homme qui a tous les documents. Et même si la femme a besoin d'un acte pour avoir, c'est un problème. Elle doit disposer de l'acte de naissance de ses enfants, de l'acte de mariage. Et souvent, quand on les envoie à la mairie, il faut que nous intervenions. L'acte de naissance, c'est plus facile d'avoir une copie à la mairie que l'acte de mariage. Surtout quand la femme dit qu'elle veut un divorce.
Pourtant, l'accès à ces documents n'est pas compliqué pour les femmes, réplique le chargé d'état civil à la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Abdina Karambe rappelle d'abord que la garde de ses papiers revient à l'époux avant de préciser que l'officier d'état civil tente souvent de rapprocher les conjoints en cas de problème.
Dans les dispositions du code de mariage, on dit que c'est le mari qui est le chef. Donc c'est au mari qu'il appartient de garder ses documents pour le couple. Les femmes, c'est leur droit. Dès qu'elles viennent à la mairie pour chercher le document, nous ne pouvons pas ne pas les donner. Généralement, quand je vois une femme en larmes qui se présente devant nous, je veux avoir mon acte de mariage. Bon, y a des femmes qui nous disent clairement, le mari a refusé de me donner. On appelle le mari et on discute.
Les avis des femmes sur la gestion d'actes d'état civil sont divergents. Toutefois, nombreuses sont celles qui pensent que cette tâche incombe aux époux dans le foyer. Ces dames de Kaye, Kadiolo et Tomignan se prononcent.
Il m'est très difficile de garder ces papiers à cause des enfants.
Je pense qu'il revient à l'homme de s'occuper de l'acte de mariage. Sinon, quand nous on pique une crise de colère, les conséquences peuvent être graves.
Ce n'est pas qu'on ne peut pas les garder, mais on accepte que notre époux le fasse. En cas d'urgence, je peux facilement les accéder.
En cas d'urgence.
Pour plus de sécurité, peut-être ils vont se dire avec les femmes, si certaines femmes sont négligentes, ils peuvent perdre ces documents.
Pourquoi les hommes gardent toujours ces documents précieux? Certains hommes rencontrés à Bamako avancent leur raison.
C'est moi-même qui garde tous ces papiers. Lorsque je pars en voyage, je les mets à la disposition de mon épouse.
Si vous confiez ces documents à votre femme, ne soyez pas étonné dans l'avenir lorsqu'elle vous convoque au tribunal.
Si l'homme voyage beaucoup, il peut les donner à sa femme. C'est mieux que l'homme garde ses actes d'état civil. Les femmes d'aujourd'hui sont imprévisibles.
Aucune disposition de la loi ne demande de confier les actes d'état civil à l'époux, c'est ce qu'affirme Mahamadou Djanka, juriste.
C'est plutôt une question de responsabilité liée à nos coutumes qu'une disposition expresse de la loi qui prévoit cela. Chacun dispose de la possibilité de faire l'usage qu'il en veut, notamment dans le cadre de la couverture sociale ou dans le cadre de la gestion de l'impôt. Mais c'est la coutume plutôt qui veut que ces actes d'état civil soient gardés par le chef de famille.
Rappelons que les actes d'état civil sont délivrés par les mairies des communes au Mali.